Nous sommes dans les temps pour l'horaire. Alors, je précise pour aux personnes qui sont dans le petit auditorium en train de nous regarder en ce moment à la télévision qu'il reste des places. Il reste au moins 20 places ici. Donc, vous pouvez nous rejoindre maintenant. Il fait plus chaud. Et voilà. D'accord ? Donc, vous pouvez venir même en cours de route. Nous attendons l'arrivée de Fabrice Collin et de Henri Lovenbruck, en fait, qui prenait le train et qui arrivait. Ils vont arriver maintenant. Alain Evan n'a pas encore gagné sa place. Donc, si on pouvait faire comme dans les aéroports et dire que Monsieur Evan...
voilà.
D'accord. Alors, maintenant, le deuxième partie va être découpée, elle aussi, en deux temps. Donc, une intervention de Michael Deveau, puis une intervention de Léo Carutter sur des questions essentielles, donc l'histoire de la Terre du Milieu et le rapport à la littérature médiévale. On diffuse les deux derniers extraits du documentaire de Bailey sur Tolkien. On va le diffuser, après l'intervention de Michael. Et l'après-midi va se terminer autour d'une discussion entre Fabrice Collin et Henri Lovenbruck, d'où l'intérêt qu'il soit là, en fait. Sur leurs travaux, Henri, mais il va y avoir une chaise pour toi. Voilà. Et on va peut-être permuter, tu vas peut-être te mettre à côté de lui, etc. D'accord, je vais aller au bout. Et Fabrice Collin, maintenant. D'accord, donc la parole est à Michael Deveau. Juste avant de me déplacer, je présente rapidement Michael, donc qui est philosophe, qui travaille sur Leibniz et Descartes, qui dirige comme parution la feuille de la compagnie, que tu peux montrer. Voilà. Dedans se trouvait donc l'article dont il a été question tout à l'heure de Philippe Garnier, et également un texte très intéressant sur la réception de Tolkien en France avant 73. Voilà. Et en particulier ce que Michael a mis à jour, à savoir l'existence d'un interlocuteur essentiel de Tolkien, dont tu pourras parler. Voilà. Donc, à notre connaissance, c'est un des meilleurs spécialistes de l'histoire de la Terre du Milieu en France, avec des gens comme Philippe Garnier qui sont dans la salle, et qui va nous parler justement de ce corpus étrange de textes, une douzaine de volumes, dont deux seulement traduits en français. Voilà.
Merci Vincent. Je vous remercie de m'avoir invité pour parler ici à la Bibliothèque nationale de France de Tolkien. Alors, je vais donner comme titre à mon intervention « Pourquoi prendre au sérieux l'histoire de la Terre du Milieu ?» C'est un titre peut-être un petit peu austère, j'en proposerai un sous-titre plus poétique, disons « Les parfums du Silmarillion ». Non pas que je sois parfumeur et que, comme disait Anne tout à l'heure, je m'enquière de ce que c'est que le parfum chez Tolkien. Non, je vais essayer avec cette image de faire ressortir la diversité que l'on trouve dans les différents projets du Silmarillion. Je voudrais donc essayer de proposer quelques repères pour cette espèce de jungle que représentent les 12 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu. Et au passage, tenterai une sorte de synthèse à la fois des textes et de l'état de la recherche sur cette question. Alors on peut bien sûr se contenter d'une lecture superficielle de Tolkien et le tourner en dérision. Il est bien connu que ça n'est qu'un hobby de s'occuper des hobbits. On peut au contraire essayer de prendre au sérieux Tolkien, mais cela requiert une lecture approfondie. On peut le prendre au sérieux à deux niveaux. Tout d'abord, concernant le fond du discours. De ce point de vue, les elfes, la présence même, l'existence des elfes dans le monde de Tolkien est ce qui fait ressortir le problème de la mort. D'une certaine façon, quand je suis dans un univers où toutes les créatures sont mortelles, la mort est un fait, ça peut être un scandale, mais son problème ne ressort pas de la même façon que lorsque je suis dans un univers où j'ai des créatures qui sont immortelles et qui sont à côté de moi, si je puis dire, si je suis dans ce monde, qui sont à côté de moi et qui me rappellent que je ne suis pas de la même nature qu'eux et qu'il est possible de ne pas mourir. Donc c'est le premier point. Tolkien a pour sujet essentiel la mort. Vincent a écrit sur cette question, moi aussi. La mort est un espoir qui est obscurci par Melkor, dit Tolkien, à savoir que... la mort, mais j'y reviendrai, la mort n'était pas initialement quelque chose de mal, mais c'est quelque chose sur laquelle Melkor a jeté son ombre, hein, d'où l'expression que l'on retrouve chez Tolkien, d'ombre de la mort. Alors cette entrée, cette première entrée, vaut du Seigneur des Anneaux, elle vaut aussi du Silmarillion, et on peut, je crois, prendre au sérieux Tolkien en général à partir de ce point de vue. On peut le prendre de façon plus limitée, non plus en général, mais de façon plus limitée, en se focalisant uniquement sur les 12 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu, où cette fois, ce n'est plus le fond du propos qui importe, mais les variations de forme, les variations de présentation de l'histoire. Hein. Alors, l'histoire de la Terre du Milieu présente les variantes des textes de Tolkien pour le Seigneur des Anneaux et pour le Silmarillion. Je m'attacherai plutôt aux 9 volumes qui concernent le Silmarillion. Alors, il y a des surprises dans l'étude de ces textes, et c'est ce qui va finalement expliquer pourquoi il faut dépasser, je crois, la simple lecture du Silmarillion. Hein, il y a une espèce d'approfondissement perpétuel. Hein, on lit le Seigneur des Anneaux et puis on voit qu'il y a une profondeur dans le Silmarillion. Là, je suis en train de dire qu'il faut aller au-delà du Silmarillion pour aller vers les différents Silmarillions qui existent. Alors, je voudrais prendre 2 exemples peut-être pour expliquer ce point. Dans les 2 premiers contes qui sont écrits par Tolkien, dans le livre des contes perdus, tout simplement, le premier conte perdu, qui rapporte l'histoire d'un marin, Eriol, qui arrive sur une île, Toleresse, qui est l'Angleterre, ce premier conte, qui met en place une filiation pour la tradition des légendes, ce premier conte n'est pas repris dans le Silmarillion. Premier point. Deuxième exemple, dans l'Ainulindale, donc dans le récit de la création qui ouvre le Silmarillion édité en 77, il y a un mot elfique que l'on trouve et qu'on n'imagine pas n'avoir pas été là dès le début, hein, c'est « et », c'est-à-dire « que ces choses soient », c'est l'équivalent du « fiat » de la Genèse. Eh bien, ce mot, non seulement en elfique, mais aussi en français ou en anglais, hein, le « que ces choses soient », ça n'existe pas avant 1948. Hein. Donc pendant au moins toute la première partie de sa carrière, Tolkien n'avait pas jugé bon d'inclure cette référence, hein, finalement, à la création telle qu'on peut la voir dans le « et ». Alors, je voudrais expliquer pourquoi ces deux exemples sont la manifestation d'un seul et même phénomène d'évolution. Hein. Et c'est ce phénomène d'évolution que j'appellerai le changement de parfum. Alors je procéderai en 3 temps. D'abord, très très rapidement, je voudrais rappeler quels sont les obstacles à la prise au sérieux de Tolkien. Mais il en a déjà été question, donc ce sera très très bref. Dans un deuxième temps, qui sera l'essentiel de mon propos, je donnerai quelques repères concernant les sources auxquelles Tolkien a puisé pour bâtir le Silmarillion. Et enfin, je donnerai quelques repères stylistiques sur la façon dont, dans la forme, Tolkien a présenté son œuvre. Alors, l'histoire dans Le Seigneur des Anneaux, Pippin dit qu'il veut connaître, je cite, « les noms de toutes les étoiles, de toutes les choses vivantes et de toute l'histoire de la Terre du Milieu ». C'est dans le chapitre 11 du livre 3, après avoir regardé dans le Palantir. Alors, cette histoire de la Terre du Milieu, qui va donc servir de titre à l'ensemble de l'édition du Narlas, cette histoire qui est à l'arrière-plan du Seigneur des Anneaux, c'est évidemment le Silmarillion. Hein. Tolkien y a travaillé toute sa vie, on l'a dit, et Christopher l'a édité dans ses 12 volumes d'une manière chronologique. Hein. Si ça s'appelle une histoire de la Terre du Milieu, c'est parce que l'édition elle-même se fait dans l'ordre chronologique. Pour dire les choses très brièvement, les 5 premiers volumes couvrent les différentes rédactions du Silmarillion avant l'écriture du Seigneur des Anneaux. Puis les volumes 6, 7 et 8 sont les variantes de l'écriture du Seigneur des Anneaux. Et puis les volumes 9, 10, 11 et 12, c'est globalement là encore le Silmarillion après le Seigneur des Anneaux. Alors cette histoire dépasse l'objet qui la qualifie dans le sens où la Terre du Milieu dont parle Tolkien et dont parle le titre n'apparaît qu'à partir des années 30. Hein. La première occurrence se trouve au tome 4. Page 264, pour ceux que ça intéresse. Auparavant, Tolkien disait simplement les terres extérieures ou les grandes terres. Hein. Ce mot qu'il utilise, la terre du milieu, vient du moyen anglais, Middle-earth, ou du vieil anglais, Midengard. Léo Caruthers corrigera ma faible connaissance du vieil anglais. La terre du milieu, en ce sens-là, que Tolkien va chercher en vieil anglais, ça désigne la terre entre les mers, littéralement. Et Tolkien, dans les lettres, explique que c'est la reprise de l'œikouméné des Grecs, hein, c'est-à-dire le monde habitable des hommes. C'est un terme qu'on utilise évidemment en grec et qu'on retrouve dans la Bible et qui signifie le monde qui est sauvé par Jésus-Christ. Donc voilà le point sur lequel je voulais insister pour commencer, pour présenter la terre du milieu. Avec la terre du milieu, Tolkien mobilise un terme vieil anglais au début des années 30. Pourquoi ? Quelle signification cela marque-t-il dans l'histoire du Silmarillion ? Alors c'est là que je voudrais parler de l'histoire et des deux parfums. D'abord l'histoire. L'histoire du Silmarillion telle qu'on la connaît se reconnaît dans le livre des Contes perdus qui date de la Grande Guerre de 1917. L'histoire donc perdure durant toute la carrière de Tolkien. Alors, je ne sais pas si on peut donner un pourcentage, dire que peut-être à 80%, 70%, je ne sais pas, il s'agit de la même chose. Il y a des changements qui sont notables, je les regrouperai sous trois titres. Des problèmes de chronologie. Alors, tel événement se passe avant tel autre. Alors, de multiples petits problèmes de chronologie. Le deuxième grand changement notable, il concerne la personne de Fëanor et le fait que, pendant un moment, Fëanor a essayé de refaire les Silmarils, ce qui n'arrive pas dans le Silmarillion. Et d'autre part, il n'y a pas de serment de Fëanor, donc la guerre entre les elfes n'arrive pas de la même façon dans les premiers textes. Et puis, troisième grand changement, c'est la nature de certains personnages qui changent. Beren, par exemple, est un elfe dans les premiers textes de Tolkien. Gimli aussi apparaît comme un elfe et non pas comme un nain. Ce sont des changements importants. Donc comment caractériser ce projet de Tolkien, le projet de cette histoire ? On désigne souvent ce projet, Silmarillion, comme étant une mythologie pour l'Angleterre. Alors je voudrais limiter la portée de cette caractérisation en m'intéressant aux trois lieux où Tolkien est proche de dire cela. On doit à Humphrey Carpenter cette expression de mythologie pour l'Angleterre. Il la dégage à partir de notes de Tolkien qui datent de 1911. 1911, Tolkien est encore étudiant et rien ne sera écrit de ce qui sera le Silmarillion avant 1914. Donc c'est peut-être un petit peu ennuyeux, si vous voulez, d'aller chercher cette expression à un moment où Tolkien n'a absolument pas l'idée, enfin d'aller de forger cette expression à partir de textes qui datent de l'époque où Tolkien n'avait pas idée d'écrire le Silmarillion. Dans les Letters, ensuite, dans la lettre 180, Tolkien reprend l'expression mythologie pour l'Angleterre, mais il la reprend à un correspondant. Et ce correspondant n'avait lu que le Seigneur des Anneaux, et ça ne désigne que le Seigneur des Anneaux à ce moment-là. Donc vous voyez le problème qu'il y a à dire qu'on a affaire à une mythologie pour l'Angleterre dans le Silmarillion, alors que ça désigne la seule fois où Tolkien le met une expressis verbis sous sa plume, c'est à propos du Seigneur des Anneaux. Et puis le dernier point, c'est dans la lettre 131, où Tolkien semble dire qu'il dédie, peut-être pas une mythologie, mais un légendaire à l'Angleterre. Mais quand on lit ce texte, on oublie toujours, me semble-t-il, de lire à la fois le début et la fin, à savoir qu'il y dit que depuis que j'ai eu cette idée, mon panache s'est bien rabattu. Et il finit en disant « ce projet est absurde ». Donc nous sommes en 1951, à ce moment-là, Tolkien a, semble-t-il, changé d'idée. Hein ? C'est absurde. Donc c'était l'idée initiale, mais ça n'est pas réalisable. Si vous voulez. Hein. Tolkien dit, je voulais que ça soit redolent, parfumé justement, hein, parfumé de l'air que je peux lire dans ce que je peux lire de vieil anglais. Mais depuis, mon panache s'est bien rabattu. Hein, et Tolkien explique que justement, ce qu'il fait finalement très rapidement après la Ainulin d'Ale est beaucoup moins majestueux, c'est beaucoup moins mythologique qu'on le dit d'habitude. On en vient vite à des légendes, simplement. Hein.
Et la dédicace à l'Angleterre semble être, au moins en 1950, plus tout à fait à l'ordre du jour. Un autre parfum, si vous voulez, a pris le relais. Alors, quels sont ces parfums ? Le premier parfum, c'est ce que j'appellerais le parfum anglo-saxon, qui se décline à deux moments. D'abord, Eriol, dont on a parlé très rapidement tout à l'heure. Eriol est conçu comme un germain de la fin de l'Antiquité. Il découvre Tull et Ressé, qui est l'Angleterre. Et c'est là, finalement, où la mythologie pour l'Angleterre a le plus de sens, dans les tout premiers textes. On voit Eriol introduire des personnages centraux de la littérature vieille anglaise, Hengest, Orsa, ou les noms vieille anglais de Odin et de Thor, Woden et Tunor, qui sont identifiés à Manwë ou Tulkas. Plus tard, dans les années 30, la conception de qui est Eriol change. Là encore, Philippe Garnier a travaillé sur cette question, et je me réfère à ses travaux. Tolkien fait d'Eriol un anglais de la fin du premier millénaire et non plus un germain de l'Antiquité, et Tull et Ressé, l'île sur laquelle il arrive, n'est plus l'Angleterre. On assiste à la même période à la mobilisation du parfum anglo-saxon sous une autre forme, puisque Tolkien rédige certaines versions de ses textes en vieil anglais. Il y a dans l'histoire de la Terre du Milieu des textes qui sont rédigés en vieil anglais. Cela cesse, il faut le noter, cela cesse avec l'écriture du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que dans les textes qui suivent, donc dans les derniers volumes de l'histoire de la Terre du Milieu, ça n'intervient que dans le tome 9 pour quelque chose qui n'est plus finalement tout à fait le projet du Silmarillion, mais qui est un autre roman qui s'appelle The Notion Club Papers. Donc voilà pour le premier parfum. Le deuxième parfum, qui donc a pris le relais, c'est ce que j'appellerais le parfum catholique. Autrement dit, après l'achèvement et la publication du Seigneur des Anneaux, Tolkien revient au Silmarillion et il écrit alors des textes d'un genre nouveau au sens où il s'y met au clair sur les conceptions théologiques et philosophiques qui sont au fondement de son légendaire. Deux textes capitaux de ce point de vue doivent être mentionnés. Tolkien y travaille explicitement sur ce que c'est que la mort et comment on doit concevoir la mort. Thème capital, donc, si jamais on en croit ce qu'il dit. Le premier s'intitule « Loi et coutumes parmi les Eldar », qui est publié dans le tome 10, où, pour faire vite, l'union de l'âme et du corps des elfes qui sont immortels est traité de façon assez précise. L'âme est permanente, la séparation de l'âme et du corps n'est pas naturelle, c'est dû à Melkor, mais Eru, donc Dieu, peut réincarner les elfes. Leur âme, pour cela, doit se rendre en Mandos, c'est-à-dire en Valinor, dans le paradis. Là, les elfes sont jugés, et puis, si Eru est d'accord, s'il consacre le choix qui est fait par les Valar, alors à ce moment-là, il leur est permis de se réincarner ou d'être ressuscité, puisque Tolkien emploie le terme parfois, avec des reprises, des mises en place de ce que, des explications concernant la résurrection, qui doivent beaucoup, me semble-t-il, au père de l'Église. Mais l'immortalité des elfes, c'est là où Tolkien est intéressant, l'immortalité des elfes n'est pas éternelle. Tolkien pense une immortalité qui n'est pas éternelle. Les elfes durent autant que le monde dure, mais lorsque la fin des temps sera venue, on ne sait pas ce qu'il advient des elfes. En revanche, les hommes, eux, sont mortels, mais éternels. Dans le sens où, eux, leur est annoncé un espoir qu'au-delà de la mort, une autre vie leur est promise. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Alors, ce point-là est travaillé dans un autre texte qui s'appelle le dialogue entre... Enfin, je traduis, c'est de l'elfique. C'est le dialogue entre Finrod et Andreth, l'Atrabeth Finrod à Adreth. Et là, la mort des hommes apparaît comme un espoir, véritablement. L'ombre de la mort, comme peur de la mort, apparaît comme une corruption du don d'Ilúvatar par Melkor. Il y a de l'espoir dans la mort des hommes. Le mal a été jeté simplement par Melkor, et quelque chose qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux, quand Aragorn dans les Appendices dit « je vais rendre le don, je meurs sereinement », ça veut dire qu'il meurt en espérant une vie après le rendu du don. Alors, je ne vais pas développer les autres thèmes catholiques qui sont présents dans Le Seigneur des Anneaux. On pourrait parler de l'incarnation. Hein, Tolkien, dans ses textes, annonce l'incarnation du Christ, non seulement sa première venue, mais son second avènement, hein, pour venir combattre à la fin des temps. La conception du mariage aussi, expliquée dans le détail, je n'y reviens pas. Donc l'incarnation dans la Trabesse et le mariage dans Loi et Coutume parmi les Eldar. Alors ce parfum catholique, on le rencontre sous une autre forme que celle qui est utilisée dans Le Seigneur des Anneaux. Je voudrais revenir ici un petit peu sur les obstacles que j'ai laissé passer tout à l'heure. Il y a trois obstacles, pour le dire vite, à la prise au sérieux de Tolkien. Le premier, il est téléologique, c'est-à-dire la destination de l'œuvre. C'est de la littérature pour enfants ou pas, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième, c'est un obstacle que j'appellerais théologico-culturel. C'est-à-dire Tolkien est un catholique qui écrit une mythologie, qui est croyant, et qui écrit une mythologie. Qu'est-ce que c'est qu'une mythologie écrite après la révélation ? L'obstacle théologique. L'obstacle est culturel dans le sens où le référent mythologique qu'il utilise, ça n'est pas la mythologie auquel on pense le plus immédiatement, la mythologie grecque et romaine, mais c'est la mythologie scandinave. Peut-être en France, peut-être un obstacle un peu plus culturel. Le dernier point qui nous aide à comprendre justement les différents parfums dont je parle ici et les obstacles, c'est l'obstacle allégorique, qui est à mon avis le plus lourd. Tolkien répète à l'envi que ça n'est pas une allégorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de correspondance terme à terme dans ce qu'il écrit avec quoi que ce soit. C'est-à-dire, à chaque fois, quelques questions qu'on travaille, on va trouver un élément qui peut se rattacher, je ne sais pas, par exemple, à sa foi catholique, mais on va aussi trouver un autre élément littéral qui vient d'une source vieille anglaise. Donc, le point capital, c'est de se dire qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est Tolkien si on ne le lit pas. C'est-à-dire, je pense qu'il faut dépasser le film et que le film ne peut pas rendre compte de ça. C'est dans les mots et dans l'emploi des mots qu'il y a des citations larvées un peu partout. Citations bibliques, citations de textes vieil anglais, Léo Carouter s'en parlera tout à l'heure. C'est donc à l'intérieur de la littéralité du texte que l'on peut retrouver ces différents parfums. Mais il n'y a jamais de citation, il n'y a jamais de guillemets. C'est toujours masqué d'une certaine façon. C'est pour ça que je parle de parfum, ça me paraît assez évocateur finalement. Alors, on a ce type d'inscription dans Le Seigneur des Anneaux, dans la littéralité du texte. Ça se passe à un autre niveau, comme je viens de le dire, qui est peut-être plus explicite et thématique dans le Silmarillion et dans les dernières évolutions du Silmarillion. Pour finir, c'est ce que je voudrais présenter. Le Silmarillion s'est formellement présenté sous bien des aspects, Tolkien s'étant essayé à différents types de présentation de sa matière. Alors, c'est le dernier point que je voudrais développer. Oui. Je termine. Donc, dans l'histoire de la Terre du Milieu, ça se présente sous forme d'annales. Donc, Tolkien, un peu comme dans les appendices du Seigneur des Anneaux, Tolkien présente avec des entrées, avec les dates, etc. Ça se présente, évidemment sous la forme du conte, qui est un truc habituel. Il y a un intérêt linguistique extrêmement important, dans le sens où ces textes présentent la plupart des racines, enfin des étymones que Tolkien utilisait pour construire les mots, que l'on retrouve et qu'on a vu écrire tout à l'heure dans le documentaire. Et puis enfin, ça se présente sous la forme de romans. Parfois d'autres romans qui reprennent ce point. Et de ce point de vue, je dirais que si jamais il fallait aller faire le premier pas dans l'histoire de la Terre du Milieu dans les 12 volumes, après avoir lu le Silmarillion, je proposerais le tome 5. Puisque ce tome 5 présente tout ce que je viens de dire, à savoir la forme habituelle du conte, disons, la forme d'annale, la forme d'essai linguistique et cette forme de roman, le roman The Lost Road, qui est un roman dont je ne vais pas avoir le temps de parler malheureusement, mais c'est la diversité la plus, là où la diversité est la plus présente, c'est dans ce tome 5, donc, qui me paraît de ce point de vue représentatif. Pour conclure, je voudrais présenter trois points. D'abord dire que simplement la première raison pour laquelle il faut aller dans Home, c'est que c'est le vrai texte de Tolkien. Le Silmarillion, ça n'est qu'une compilation réalisée à partir de l'ensemble de tous ces manuscrits, une compilation qui a été réalisée par Christopher Tolkien. Donc si jamais on veut lire Tolkien, c'est vraiment dans l'histoire de la Terre du Milieu qu'il faut aller. Je voudrais, comme deuxième point de ma conclusion, limiter ce que je viens de dire. J'ai quand même un petit peu forcé le trait. C'est-à-dire, il y a toujours les deux éléments du parfum dont j'ai parlé. Hein. Bon, même si chronologiquement, on voit un moment où l'un prend le dessus sur l'autre, hein, enfin on prend le dessus en tout cas, où l'un, le second vient prendre beaucoup de place dans les appendices et au niveau structurant hein, de l'œuvre. Il ne faut jamais oublier qu'il y a les deux éléments. Je prends deux exemples. Il y a une pensée du purgatoire qui est dans le livre des contes perdus qu'on ne retrouve pas après. Hein. Et donc c'est un élément chrétien alors qu'on est dans le parfum anglo-saxon ou nordique. Hein. Le deuxième exemple, c'est l'inverse. C'est un thème traditionnel nordique, le thème de la fratrie, des frères, des demi-frères, des généalogies, qui n'est pas aussi présent que cela dans les premiers tomes et qui se développe au contraire au fur et à mesure du temps. Voilà pour pondérer un peu ce que j'ai dit. Et puis le dernier point, très rapide, j'ai démoli d'une certaine façon, en tout cas limité ce que voulait dire mythologie pour l'Angleterre. Je voudrais proposer quelque chose d'autre en rapprochant finalement le projet de Tolkien avec ce qu'un Français à la fin du 19e écrivait, l'Uchronie de Charles Renouvier, première édition 1857, deuxième édition 1876. Il y a trois points frappants, me semble-t-il. Donc, ça s'appelle une uchronie. Donc, on refait l'histoire, on retourne en arrière, on refait l'histoire, on réinvente une histoire. Cela se fait grâce à des manuscrits qui sont inventés, mais dont on dit qu'ils ont été légués de génération en génération. Ce sont des manuscrits latins qui sont perdus, exactement comme Tolkien imagine des manuscrits anglo-saxons qui passent de main en main par Eriol, etc. Deuxième point. Et le troisième point, c'est que ce qui sert de préface et puis la fin du texte, ce sont des appendices. Donc je pense que on a peut-être là quelque chose pour penser une proximité de Tolkien avec l'Uchronie de Renouvier. Et pour terminer, je dirais que simplement pour caractériser le projet de Tolkien, peut-être que si jamais on remplace mythologie par légendaire, qui est le terme que Tolkien utilisait à partir des années 50, alors on peut se dire qu'un légendaire uchronique, c'est peut-être finalement ça que Tolkien essayait de faire, c'est-à-dire quelque chose comme un « ça n'a pas existé dans le temps hein, », ça n'a même pas existé, mais ça aurait pu finalement, c'est-à-dire une possibilité, l'exploration d'une possibilité, c'est ce que dit Tolkien dans une lettre, à page 189 des Letters, hein, « j'explore une possibilité », je crois que c'est ça qu'a voulu faire Tolkien. Je vous remercie.
Oui, bravo Michael d'avoir réussi à faire une synthèse comme ça sur ces 12 volumes un petit peu difficiles à cerner sinon et d'avoir montré toutes les implications et toutes les différentes lectures qu'on peut faire de Tolkien. Nous allons donc échanger maintenant des questions-réponses avant de passer un extrait du documentaire de Bailey et à ce moment-là Fabrice Collin qui vient d'arriver nous rejoindra. Donc la parole est à vous.
Bonsoir. J'avais une question à propos du Cimarion. Vous avez dit que c'était donc le fils de Tolkien qui avait écrit le Cimarion. Et j'avais vu à la bibliothèque, donc il y a une vidéo que vous avez présenté des extraits tout à l'heure sur la vie de Tolkien. Et en fait, ce qu'il disait dans cette vidéo, je ne sais pas si c'est exactement le cas, c'est qu'à la fin de sa vie, il était trop fatigué, Tolkien, pour réaliser ce projet, le Cimarion. Et j'aurais voulu savoir en fait quel était, est-ce qu'il aurait voulu éditer le Cimarion ? Et si c'est le cas, sous quelle forme le Cimarion il aurait été édité ? Et une petite question, j'ai pas tout à fait compris les 12 volumes du Cimarion, j'ai pas tout à fait compris ce que c'était. Est-ce qu'il y aura une édition traduite prochainement en français ?
Tu répondras.
Voilà, merci.
Alors, je vais essayer de les reprendre. Alors. Qu'est-ce que Tolkien aurait édité sous le titre de Silmarillion s'il l'avait édité le texte que je vous invite à lire en premier, hein, le tome 5, contient le texte qui a été soumis à l'éditeur en 1937. Hein. Donc Tolkien avait bien à un moment donné, en tout cas, envie de publier le Silmarillion. Il en a soumis une version, d'une certaine façon. Dans les années 60, en 66, il y a un universitaire américain qui s'appelle Kilby qui est venu passer tout l'été avec Tolkien et qui a lu les textes pour l'aider à finir le Silmarillion. Bon, ça n'a pas abouti. Et à la fin de sa vie, peut-être plus tôt qu'on ne le pense, Tolkien, peut-être pour des raisons psychologiques, ne voulait plus finir le Silmarillion. En parlait beaucoup à son fils, Christopher, qui, par bien des aspects, lui ressemble, hein, qui a fait à peu près la même carrière que lui, il était spécialiste de chausseurs. Il a fait sa carrière à Oxford aussi. Et donc, il en a beaucoup parlé à son fils pour que lui réalise cette édition. Et à la mort de son père, Christopher a pris sa retraite. Et en 74-75, il travaille avec un Canadien qui s'appelle Guiquet pour préparer, compiler le Silmarillion. Ce qu'on sait peut-être pas assez, c'est que la forme initiale que Christopher voulait donner au Silmarillion, c'est celle de textes commentés, comme on trouve dans les contes et légendes inachevées, ou dans l'histoire de la Terre du Milieu. C'est Guiquet qui a un petit peu poussé pour que ça soit un texte complet et autosuffisant, d'une certaine façon. Alors, pourquoi Tolkien ne voulait pas finir le Silmarillion ? Un de ses vieux amis, Christopher Wiseman, qui date du temps de la guerre, hein, disait, et qui a vécu beaucoup plus longtemps que Tolkien, disait, parce que tout simplement, finir le Silmarillion, c'était tuer les elfes pour lui, et c'était impossible. Ça aurait été achever quelque chose, justement. Hein. C'était ne plus laisser vivre la féerie, je ne sais pas comment il faut dire. Hein. Donc, voilà. Alors, les 12 tomes, oui, voilà, c'est ça. Les 12 tomes, physiquement, ce sont des textes de Tolkien qui sont à chaque fois commentés par Christopher, en expliquant quelles sont les évolutions dans le vocabulaire utilisé, en commentant les écarts avec le Silmarillion tel qu'on le connaît et qui est le moyen par lequel on a accès à l'histoire. Parce que, bon, je veux dire, se lancer dans les 12 tomes comme ça, c'est un petit peu périlleux. Hein. Donc, ce sont... Alors, il y a ce que j'ai dit, hein, 12 tomes, il y en a 8 ou 9 qui sont consacrés au Silmarillion. Donc, c'est plusieurs versions du Silmarillion. Hein. Avec beaucoup de documents, avec des poèmes, hein, sous forme de poèmes, sous forme d'annales, des lexiques. Enfin, c'est tout le matériau, on va dire, qui aurait servi au Silmarillion. Et pour finir, de répondre à votre question, qu'est-ce qui aurait été inclus par Tolkien dans le Silmarillion ? Ça change au fur et à mesure du temps. Hein. Ce à quoi il pense dans les années 30, pour le dire vite, c'est ce qu'on connaît comme texte édité, plus les annales. Et puis, ensuite, au fur et à mesure où le temps passe, il rajoute, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, il rajoute des textes d'appendices. Ce sont essentiellement ceux, dans les années 50, dont j'ai parlé, c'est-à-dire les textes qui concernent la mort. Ça aurait fait partie, sans doute, si jamais il avait fini à ce moment-là, ça aurait fait partie du Silmarillion. Donc, le Silmarillion lui-même aurait été composé de plusieurs volumes, et un peu comme le Seigneur des Anneaux, mais de façon plus poussée. Hein. Les appendices auraient été beaucoup plus gros, finalement, hein, que le texte lui-même. Voilà, parce que vers la fin de sa vie, hein, plus ça allait, plus il écrivait des textes théologiques et philosophiques. Enfin, c'était plus ça qui l'intéressait, hein, où il dégageait, si vous voulez, les fondements de son monde. Hein. Non plus les histoires, mais il prenait deux personnes, il les faisait discuter entre eux, c'est un dialogue, et puis ça discute sexe, si je puis dire. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est que l'espoir, qu'est-ce que c'est que la mort, comment on peut la penser, etc. Hein. Il y a des textes fabuleux où Tolkien, en l'espace de 3 pages, affine ce que c'est que l'espoir, et il y a un bouger. Alors, ça se complique, parce qu'il utilise plusieurs langues elfiques pour essayer de dire les choses, et le concept bouge pendant 3 pages. Hein. Donc, on ne peut pas arriver sur 3 lignes en disant « Ah bah ça veut dire ça ». Non, non, il faut voir vraiment sur ces 3 pages-là comment ça bouge. Hein. Et comment les traditions sont pensées, repensées, etc. Voilà.
Les 12 volumes ressemblent en fait à... Les deux premiers ont été traduits en français, donc le livre des contes perdus, d'accord, maintenant en un seul volume, donc on finit par s'y perdre, ça ressemble aux contes et légendes inachevées, donc des textes avec une présentation par Christopher Tolkien. Donc actuellement, les deux premiers ont été traduits par Adam Tolkien, 95 et 98, et les 3 suivants sont en cours de traduction. Et sont prévus pour la publication, ça commencera au début de l'année prochaine. Voilà, ça répond à vous.
C'est juste pour rassurer le jeune homme qui a posé la question et peut-être d'autres membres du public sur qui était l'auteur du Silmarillion. Parce que votre première question, c'était est-ce que le Silmarillion a été écrit par J.R.R. ou Christopher ? Et en fait, le texte est bien celui de Tolkien, le père. Ce que Christopher a fait après la mort de son père, c'est de faire un choix, de faire un tri, parce que l'auteur avait laissé une masse, une pile de documents, et Christopher les a préparés pour la publication. Mais c'est bien le texte de son père.
Avec des remaniements quand même ici ou là.
D'autres questions ? D'autres questions ?
Ce serait pour savoir si, en créant ainsi une histoire de la Terre du Milieu et une histoire aussi complète que possible, Tolkien, il n'avait pas cherché à avoir une réponse au réel au travers de l'imaginaire.
Oui, bah c'est tout du moins le projet qu'il explique dans l'essai sur le conte de fées. Hein. Le conte de fées, puisque c'est comme ça qu'on traduit, le conte de fées est là pour nous permettre de réaccéder à ce qui est essentiel dans la réalité, avec, au-delà des problèmes qu'on peut avoir au quotidien, d'essayer de purifier d'une certaine façon la réalité pour se rappeler de ce qui est fondamental, y compris en passant par ce qui peut paraître dérisoire à l'intérieur du conte. Hein. Il y a un réaccès, justement c'est ce qu'il dit, hein. Il y a un réaccès aux choses grâce justement à la féerie. Donc, pour vous répondre d'un mot, oui.
C'est une question de vision, en fait. Le conte de fées permet de faire tomber les apparences qui nous coupent de la réalité.
Comme il le dit, revenir aux choses mêmes.
Ce qu'il appelle le recouvrement, c'est la voie que lui a trouvée, passer par le merveilleux pour accéder au réel. Donc, ce n'est pas du tout une littérature d'évasion au sens parfois complexe que le terme peut avoir. C'en est une au sens utilisé par Alain Desvans, mais on ne fuit pas le réel. Le merveilleux sert de détour. D'autres questions ? Donc c'est dans Faerie, hein. Ce texte-là est dans Faerie, c'est assez court et c'est très intéressant.
Bonjour. En fait, vous avez parlé pas mal de théologie et de l'influence du catholicisme dans les écrits de Tolkien, et ça m'a rappelé une question que j'ai vue sur un forum. En fait, j'aimerais savoir à quoi on pourrait attribuer ou comment on pourrait expliquer le fait que dans les écrits de Tolkien, il n'y ait aucun culte divin.
Alors, peut-être d'une certaine façon, la réponse, elle est dans le... Alors, c'est partiellement vrai, il y a un culte qui est voué à Melkor, si je me souviens bien, dans certains textes. Mais Tolkien, quand il dit « Seigneur des Anneaux est un livre catholique », non pas dans son écriture première, mais sûrement, de façon inconsciente dans son écriture première et explicitement dans sa révision, hein, de façon consciente dans la révision... La justification qu'il donne, c'est de justement le fait que c'est une œuvre catholique, c'est qu'il y a gommé toute référence justement aux autres cultes. Hein. Et d'une certaine façon, l'explication allait dans ce que on est avant la révélation. Hein. C'est une uchronie, on est revenu. Tolkien disait premier âge, deuxième âge, troisième âge, début d'un quatrième âge qui est écrit, etc. Nous sommes grosso modo au septième âge. Hein, il y a dans une lettre où il explique ça. Donc on est avant la révélation, mais à l'intérieur des textes, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, il est question que Dieu s'incarne pour venir dans le monde. Hein. Non seulement il s'incarnera une fois, mais il s'incarnera deux fois. Hein. Donc il y a une espèce de prophétie, si vous voulez, de l'incarnation du Christ, et ça se fait au prix, si vous voulez, inverse, ça se fait au prix de l'éradication du culte dans le monde qu'il décrit.
Une dernière question avant de passer au documentaire, parce que là, on commence à un petit peu perdre sur l'horaire.
Bonjour, j'ai une question qui est peut-être un petit peu bête, mais j'aimerais savoir, le travail de Tolkien est tellement basé sur la langue, est-ce que lorsqu'on l'aborde par le biais d'une traduction, est-ce qu'on ne s'éloigne pas un petit peu du but originel de ses bouquins ?
Je peux répondre ? Non, mais vas-y.
On va tirer au sort la réponse. Non. Le problème, c'est aussi une question de possibilité, c'est-à-dire que l'idéal, bien sûr, c'est d'arriver à un moment donné à lire Tolkien en anglais. Mais ça passe aussi par le fait de connaître suffisamment l'histoire pour ne pas être arrêté par la langue. Et là, il faut distinguer plusieurs choses. Bilbo le Hobbit peut être lu facilement en anglais. Le Seigneur des Anneaux, également à condition d'accepter de ne pas tout comprendre, en particulier dans les descriptions. puisque Tolkien joue énormément sur les registres, l'histoire de la langue, etc. Mais on peut comprendre l'histoire. Après, c'est vrai que ça commence à être assez compliqué quand on attaque l'histoire de la Terre du Milieu. La traductrice qui traduit en ce moment les poèmes de Home 3 maudit la langue anglaise. Non, c'est excessivement difficile puisque Tolkien a... Non, je plaisante. Hein. Mais à calquer toute l'écriture sur les poèmes allitératifs médiévaux, etc. Donc oui, dans l'idéal, lire l'anglais, c'est pour ça que, bon, lorsque c'est possible, le texte est bilingue. Il était difficile de concevoir une édition du Seigneur des Anneaux bilingue pour des raisons de place. Mais ma réponse ne peut être que lancez-vous dans le texte anglais à un moment donné. Mais les traductions françaises sont intéressantes, comme toutes les autres traductions. D'ailleurs, Thomas Honegger a sorti un premier volume d'articles sur les problèmes de traduction posés par Tolkien. Il y a des contributions de traducteurs espagnols, français, allemands, russes, espérantistes, ça l'adjectif, etc. Et on voit, c'est absolument c'est une torture. Hein.
Un autre point, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, pour traduire idéalement, enfin une traduction idéale, serait une traduction qui permettrait de retrouver à l'intérieur du texte les citations larvées. Or ça, par définition, ça suppose un travail d'annotation extrêmement lourd, ça suppose d'avoir toute la culture qu'avait Tolkien pour pouvoir reconnaître ici ou là une citation de la Bible, trois mots de vieil anglais qui sont traduits en anglais moderne et qui évoquent quelque chose, enfin, Léo Carouters en parlera tout à l'heure. C'est quelque chose de difficile de ce point de vue-là. Hein. Et de ce point de vue, je pense que c'est une édition annotée qui peut arriver à essayer d'aider le lecteur à comprendre toute la richesse et la complexité de l'écriture.
Mais c'est le problème de toute traduction. Que dire de la littérature classique ? Que dire de la littérature japonaise ou chinoise que nous sommes incapables de lire dans les langues originales ? En tout cas, moi, je ne peux pas lire le japonais ni le chinois. Nous sommes toujours face à ce problème de traduction. Ça crée d'énormes difficultés. Et pourtant, ça vaut la peine de le faire, parce que sinon, on n'aurait pas accès du tout à cette littérature. Évidemment, l'idéal serait d'arriver un jour à dépasser la traduction.
Bien, donc avant de donner la parole à Léo Carouters, on passe la deuxième séquence d'extraits. Et vous allez donc voir Tolkien, une évocation d'abord du pub où se réunissait le groupe des Inklings, simplement pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce groupe, d'amis, de lecteurs de Tolkien, et un extrait du Seigneur des Anneaux lu par Tolkien, ce qui est toujours intéressant. Le deuxième extrait, au total ça fait 3-4 minutes, est une séquence sur la mort avec une introduction de Tom Chippet qui réduit un peu trop au biographique, mais qui permet un petit peu de cadrer les choses. Voilà, si la régie veut bien lancer l'extrait. Merci.